France Info.
Bonsoir, heureux de vous retrouver sur le plateau des Informés de France Info. Le dimanche soir, on va débattre de l'actualité politique, nationale et internationale. Et j'accueille sur ce plateau, on va dire presque comme tous les dimanches soirs, François Hernenwein. Bonsoir François.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du quotidien La Croix. À vos côtés, David Boyry. Bonsoir David.
Bonsoir.
Du service économique et social de France Télévisions. En face de vous aussi, d'autres habitués. Gérard Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique, CNews et puis aussi sur le site. Oui, demain, à vos côtés, Denis Siffer. Bonsoir, Denis.
Bonsoir.
Directeur du magazine Politis. Alors, au sommaire de ces informés de France Info, le Front National n'est plus, mais Marine Le Pen est toujours là, réélue à la tête du Rassemblement National. La députée du Pas-de-Calais a fait le ménage dans la direction du parti. Exit Jean-Marie Le Pen, qui occupe désormais les plateaux de télévision. À l'Assemblée, au Sénat, la grogne monte, recours aux ordonnances, limitation du nombre d'amendements, procédure de vote bloqué, les parlementaires s'agacent des réformes menées vitesse grand V par le président de la République, plus bonapartiste que jupitérien. Et puis dans ces informés de France Info, nous parlerons de la Russie, élection présidentielle dimanche prochain, 8 candidats mais un seul gagnant qui n'a même pas eu besoin de faire campagne, Vladimir Poutine, plus que jamais tsar de Russie, à l'image de Xi Jinping, nouvel empereur de Chine. Et tout d'abord, le premier débat de ces informés de Front de France Info, le Front National qui opère sa mue en Rassemblement National. Marine Le Pen a été réélue à la tête de son parti pour un troisième mandat et elle a, cet après-midi, réaffirmé ses fondamentaux.
En France, sauf les ecclésiastiques, on ne s'habille pas en tenue religieuse dans les villes. En France, on ne se baigne pas tout habillé dans les piscines publiques. En France, on peut croire ou ne pas croire. On choisit la religion qu'on embrasse et on peut en changer. En France, les femmes s'habillent comme elles veulent, sans être importunées. Et au passage, en France, on serre la main des femmes. En France, quand on est étranger, on respecte nos lois et notre peuple. En France, quand on est étranger et délinquant, on doit reprendre l'avion.
Alors, on va évoquer le changement de nom, le logo, mais avant ça, je disais, Marine Le Pen qui ancre, qui réaffirme les fondamentaux, c'est votre avis, Gérard
Oui,
Le Pen ?
Absolument. Oui, c'est vraiment ce qui ressortait du discours de cet après-midi, c'est du lourd. Hein. C'est vraiment le discours très idéologique et vraiment retour effectivement aux fondamentaux du Front National, c'est-à-dire essentiellement les 4 I, comme on dit, hein, sécurité, identité, immigration, islam. D'autres thèmes qu'elle avait pas mal développé pendant la campagne présidentielle, tout ce qui est économique, sécurité et même Europe, elle les a un peu abordés, mais c'était quand même nettement moins que ce qu'on vient d'entendre là, où c'était vraiment un discours qui était très très dur, où les étrangers, les immigrés sont comparés à des nomades qui, avec une métaphore, ils viennent, ils prennent l'eau du puits et ils repartent, etc. Un espèce d'amalgame entre les mondialistes et les islamistes, etc. C'était quand même un discours très 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 dur, qui puisait aux sources de l'extrême droite française.
François Hernenwein, on va dire à droite, tout encore plus à droite, parce qu'il y a Laurent Wauquiez qui marche un petit peu sur les plates-bandes.
Oui, je ne suis pas sûr que ça soit la raison. Il faut que tout change pour que tout reste pareil. Et le changement de nom n'est qu'un habillage cosmétique d'une ligne qui se durcit sous la pression des événements. Le départ de Philippot, les prises de distance de son père, la pression de Marion Maréchal Le Pen aussi, tout ça crée des conditions pour que le Front National abandonne peu à peu sa, disons, sa cosmétique sociale et revienne aux 4 I évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les points sur lesquels il a creusé son sillon pendant 4 décennies, et il va continuer dans cette logique-là, avec des perspectives politiques proches de zéro. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre de ce changement de nom, pour ceux qui auraient des illusions, que quelque chose change fondamentalement au Front National.
Alors, puisque vous évoquez le changement de nom, on parle plus de, on va bientôt ne plus parler de Front National, mais de Rassemblement National. Et lorsque l'on se souvient un petit peu de l'histoire, lorsque maintenant avec Internet on fait des recherches, on tape le Rassemblement National, eh bien ça, on retrouve les noms de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, par exemple, 1965, élection présidentielle, mais pas seulement.
Et de Marcel Déat aussi, donc voilà. Un peu plus avant dans l'histoire.
Donc ça, c'est en 1941.
L'histoire est facétieuse. En effet, et Marine Le Pen dit qu'elle a beaucoup réfléchi, ce qui est inquiétant, parce que si elle a réfléchi et qu'elle ne s'est pas rendue compte en effet de cette rencontre sans doute fâcheuse, à moins qu'elle la juge heureuse de l'histoire, c'est un peu embêtant. Mais plus profondément, je pense que effectivement c'est un retour aux sources du Front National. Là. Il y a eu la parenthèse Philippot, c'est vraiment, on ferme la parenthèse Philippot, c'est-à-dire avec en effet ce qui a été appelé à l'instant la cosmétique sociale. On n'en voit plus beaucoup de traces dans le discours d'aujourd'hui, et c'est feu sur les migrants, sur l'étranger, un discours très xénophobe, très violent. Et le rassemblement, ça a quand même un sens. Effectivement, là, il y a plus qu'une main tendue, en tout cas une recherche de connivence avec les électeurs de Wauquiez et de la droite. Et effectivement, ça a sans doute à voir avec la droitisation du discours des Républicains.
Tout compte fait, la marque Le Pen, ça reste plus fort qu'un nom de parti, David Boyer.
Oui, mais c'est aussi parce que je pense que c'est juste une première étape. C'est le changement de nom, c'est juste la première étape pour laisser penser qu'on lance un mouvement pour faire oublier tout ce qui s'est passé depuis la dernière présidentielle et d'essayer de revenir sur de nouvelles bases. Mais justement, avec le même discours, le pari n'est pas forcément encore gagné, parce qu'il faut maintenant retrouver en crédibilité ce qu'elle a perdu pendant cette élection présidentielle.
On va continuer à débattre du nouveau nom, du Front National, du discours de Marine Le Pen dans un instant. Avec vous quatre, mais avant cela, à 20h10 sur France Info, l'essentiel de l'info, Lauriane Delanoë.
Rassemblement national au lieu de Front national. Voici donc le nouveau nom proposé par Marine Le Pen cet après-midi en clôture du congrès à Lille. Les militants doivent maintenant voter pour le valider par correspondance. Le principal port de Mayotte bloqué aujourd'hui. Près de 200 manifestants contre l'insécurité sur l'île tiennent des barrages à Longoni pour empêcher le ravitaillement. L'intersyndicale entend perturber la rentrée scolaire demain. Elle se fera, assure le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Une compensation de 450 millions d'euros. Voici la somme qu'Areva va verser à TVO, groupe finlandais d'électricité. Le géant français du nucléaire règle ainsi le litige sur le réacteur EPR en Finlande. Le projet a pris 10 ans de retard et doit entrer en service l'an prochain. Xi Jinping pourrait bien devenir président à vie. Le Parlement chinois a aboli aujourd'hui la limitation à 2 mandats en vigueur depuis 1982. À la place, la pensée de l'actuel président chinois entre dans la Constitution. Lyon retrouve comment gagner en Ligue 1 après 6 matchs sans victoire. Les footballeurs lyonnais l'emportent sur Caen 1-0 ce soir. Nice est allé s'imposer 5-2 à Guingamp dans l'après-midi et puis dans une centaine de minutes, Toulouse recevra Marseille en clôture de la 29e journée.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Sur le plateau des informés de France Info, Denis Siffert, Politis, Gérard Leclerc, CNews, le site Oui Demain, David Boyeri, France Télévisions, François Ernenwein, La Croix. Marine Le Pen a essayé d'exister aujourd'hui, ce week-end, mais j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu étouffée tout au long de la semaine par son père sur les plateaux de télévision, qui a un livre à vendre, il en fait la promotion. Et puis, on était dans ce congrès avec déjà une projection sur la prochaine présidentielle et une absente, Marion Maréchal Le Pen.
Oui, c'est peut-être plus elle encore que le père Le Pen qui fait de l'ombre. Parce que
L'ombre
tutélaire. Parce que d'abord, elle est l'héritière du père, justement. Et ensuite, parce que lui, ce n'est jamais qu'un livre de mémoire, d'ailleurs, dans lequel il fait l'éloge de la torture en Algérie, ou à peu de choses près. Donc, c'est en effet un petit peu lourd comme héritage pour Marine Le Pen. Mais effectivement, Marion Maréchal Le Pen a pesé lourdement dans son absence sur ce congrès. Et beaucoup des électeurs déjà du Front National la voit potentiellement, ils sont encore minoritaires, mais souhaiteraient qu'elle soit candidate et, aux prochaines élections. Et donc, c'est déjà une grosse épine dans le pied de Marine Le Pen. Et surtout qu'elle elle est tout à fait conforme à la nouvelle ligne là qui a été définie aujourd'hui, c'est-à-dire xénophobie et hostilité très brutale aux migrants et aux étrangers.
Les militants, les cadres qui votent la suppression du poste de la fonction de président d'honneur, crime de lèse-majesté, j'ai envie de dire, Gérard Leclerc.
C'est là, il y a deux objectifs dans le changement de
nom. On essaye de tuer le père, mais...
Oui, bien évidemment. Le changement de nom, il y a deux objectifs. Le premier, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que le Front National passe du parti d'opposition au parti de gouvernement, de rassemblement. Donc, il faut enlever le mot front parce que c'est trop agressif. Et puis, rassemblement, le problème de savoir avec qui se rassembler. Ça, c'est un autre problème. Et puis, il y a un deuxième objectif qui est de tourner la page, justement, du Front National et tout ce qu'il y avait dans ce mot, c'est-à-dire dans ce mouvement. C'est-à-dire que le Front National, c'était d'abord Jean-Marie Le Pen, c'est lui qui l'avait créé. Il en était encore le président d'honneur. Maintenant, on règle ce problème-là. Il ne pourra plus dire « je dois venir parce que je suis président d'honneur ». Et puis, le Front National, c'était quand même un certain nombre de dérapages qui étaient quand même gênants pour elle. Et puis, c'était les affaires judiciaires.
Il y en a peut-être eu un ce week-end, à l'occasion d'une sortie dans un établissement lillois.
Voilà, mais en tout cas, les dérapages antérieurs. Et d'ailleurs, encore au jeu, parce que pour l'instant, c'est encore le Front National, puisque ça doit le Rassemblement National doit être
validé
par les militants. Donc voilà, toutes les affaires judiciaires qui s'étaient accumulées, bah, tout ça, voilà, tout ce qui était de négatif, de plus négatif
dans le Front National. On peut pas faire table rase du passé.
Et ben, c'est une façon un peu de le faire, justement, en changeant le nom du mouvement.
Alors, le Front National peut changer de nom. Rien ne change, disait ce matin sur les antennes de CNews Europe 1, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Le Front National peut exclure, il peut changer de nom, il peut changer de logo, il peut même changer le papier peint. À la fin des fins, c'est une PME familiale qui sert les intérêts d'une famille, la famille Le Pen, depuis 50 ans, qui en vit très grassement. Donc on va remplacer Jean-Marie par Marine, peut-être demain Marine par Marion, mais au fond, rien ne change.
Voilà, François Hanenwein, c'est ce que vous disiez, c'est une affaire cosmétique, quoi. On change le nom
mais
et ça reste dans la famille.
Je voudrais insister sur le fait, là on parle beaucoup des personnes, mais il faut quand même s'interroger sur le socle idéologique porté par ce parti dans les décennies passées, et peut-être celles qui s'annoncent. Ils ont choisi quand même d'inviter quelqu'un dont même Trump ne veut plus, Steve Bannon.
Alors, son ancien conseiller.
Est connu d'ailleurs pour ses positions extrémistes et difficilement transposable en France. Enfin, si on fait du copier-coller de Steve Bannon dans le paysage politique français, la France explose. Donc, de toute façon, je ne vois pas très bien l'intérêt prospectif ou projectif d'essayer de construire un socle idéologique pour le Front National avec des acolytes pareils.
Mais là, Marine Le Pen essaye de surfer sur la vague autrichienne, allemande et italienne. On l'a vu le week-end dernier.
Oui, mais en fait, je pense que la vraie question qu'il y a autour du terme même de rassemblement, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est de se rassembler sur quoi précisément et avec qui.
Bon, rassemblement sur les fondamentaux, c'est ce qu'elle a dit.
Voilà, et donc avec un discours qui, grosso modo, reste exactement le même. Enfin, il y a très peu de modifications. La seule nouveauté, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est d'avoir un discours qui évoque des questions sur l'économie numérique avec Google.
Avec un Google français qui existe déjà.
Exactement.
C'est Quant, c'est ça.
C'est Quant, c'est français, c'est allemand, c'est européen.
C'est pas connu, mais ça existe.
Voilà, et donc on peut d'ores et déjà l'utiliser. Donc c'est juste une petite erreur factuelle sur une des nouveautés du discours. Mais...
François Hanenwein.
Mais quand on compare aux autres expériences en Europe, il faut noter que partout où l'extrême droite approche du pouvoir ou s'y installe, elle le fait dans un jeu d'alliance. Il n'y a pas de perspective à courte vue pour Marine Le Pen sur ce terrain-là.
Sauf à appeler le rassemblement. Mais...
Oui, mais qui ? Il ne suffit pas de crier rassemblement, rassemblement, pour que les gens se rassemblent.
C'est ça.
La dédiabolisation du Front National n'a finalement pas marché, parce que lorsqu'on voit le sondage du journal du dimanche ce matin, seulement 39% des Français souhaitent la candidature de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle. Il n'y a pas de confiance.
Ouais, enfin, n'oublions pas quand même qu'elle est arrivée au deuxième tour. Oui. Qu'elle était, oui.
Il y a une forte abstention aussi.
Oui, mais enfin, elle est pour l'instant, elle était au deuxième tour. Donc, c'est la deuxième force politique derrière Emmanuel Macron. Simplement, effectivement, la dernière marche, là, semble-t-il, ça va être compliqué. Alors, dans son discours, qui était effectivement très sur les thématiques, comme on l'a dit, anti-immigrés, identité nationale, etc., c'était quand même assez caractéristique. C'est là, à chaque fois, que les militants ont applaudi, ont fait une ovation, etc. Et elle remarque également que si en Italie, la Ligue est arrivée en tête des élections, c'est sur les thématiques de l'immigration. Elle observe quand même que sur ces thématiques d'identité, d'immigration, etc., bah, il y a beaucoup des thèmes, des mots, du ton qui sont repris par Laurent Wauquiez. Lui veut récupérer les électeurs du Front National, mais il dit toujours qu'il n'est pas question d'une alliance.
Pas de porosité. C'est ce que disait
Virginie Calmet. Il y a une porosité, en tout cas, peut-être dans les idées, mais ça ne doit pas déboucher du point de vue de Laurent Wauquiez sur une alliance. Et donc, c'est là où elle est quand même un peu coincée.
Mais ils sont concurrents, mais certainement pas amis. C'est-à-dire, dans un chemin de rapprochement. Même si c'est le rêve de certains, en tous les cas, ce qui se dessine là, c'est pas là. Ils ont, et l'un et l'autre, des stratégies divergentes, parce que l'un et l'autre veulent la peau de l'autre.
Voilà, exactement.
Denis Sefer. Il y a même une contradiction dans le mot rassemblement, parce que, en effet, c'est un appel à un hypothétique partenaire dont on imagine que ça pourrait être plutôt Wauquiez, en tout cas l'électorat de Wauquiez. Et en même temps, il y a un durcissement identitaire qui va être très difficile quand même à avaler. Je dirais pas pour Wauquiez, qui est pas loin d'utiliser la même terminologie, mais pour une bonne partie de l'électorat, disons, des Républicains. Et surtout, il y a un hiatus sur la question économique. Il y a des désaccords là fondamentaux, et sur l'Europe, et même sur des questions sociales, où les Républicains sont beaucoup plus libéraux, comme on dit, alors que l'héritage du Front National de l'époque récente était un héritage beaucoup plus souverainiste et anti-libéral.
Justement, là-dessus, elle a mis quand même les thés noirs. Elle n'est plus revenue sur les thématiques sociales.
Son principal conseiller aujourd'hui, Nicolas Bay, est sur une ligne beaucoup plus réactionnaire, entre guillemets, que la ligne Philippot. Dans les mots, dans la stratégie, ça va se traduire par autre chose, ce qu'on a entendu ces 5 ou 10 dernières années au Front National.
Mais ce congrès, il n'y a pas eu de débat. C'était on change les statuts, les hommes et les femmes au poste intéressant, et puis il y a le discours de la patronne, point final.
Le seul élément de débat qu'il y a eu, c'est quand ils ont les questionnaires sur le changement de nom, et là, la majorité, elle était pour 52 contre 48. Ouais.
Donc, il y a un attachement à la marque Front National et à la marque Le Pen.
Ça, c'est une problématique de sociologie. Chaque fois qu'on veut instiller le changement, il y a des résistances, des conservatismes. Et sur la question du nom, je ne crois pas que ça soit une indication politique forte ce soit.
On va continuer à parler de l'actualité politique et de cette réforme constitutionnelle qui pose question parmi notamment les rangs des élus, parlementaires, députés, sénateurs. C'est dans un instant sur France Info. Restez avec nous. Il est 20h20, l'essentiel de l'info. Lauriane Delanoë.
La rentrée des classes aura-t-elle lieu demain à Mayotte? Le gouvernement assure que oui, mais l'intersyndicale appelle les maires à maintenir les établissements fermés et les parents d'élèves à garder leurs enfants à la maison. 20 jours de mobilisation, une grève générale contre l'insécurité sur l'île. Les militants du Front National appelés à voter au Congrès de Lille cet après-midi. Marine Le Pen leur a proposé de renommer le parti Rassemblement National, d'après la présidente réélue à la tête de l'actuel FN. Ce nouveau nom porterait un message politique, un cri de ralliement. En Syrie, toute nouvelle attaque à l'arme chimique serait très mal avisée, prévient aujourd'hui le gouvernement américain. Des soupçons, mais pas de preuves pour l'instant, que le régime syrien a déversé du gaz de chlore sur la Ghouta orientale. 3 semaines de bombardements sur cette enclave rebelle, plus de 1100 civils tués, près de 4300 blessés. Fukushima, 7 ans après, un tremblement de terre au Japon, suivi d'un tsunami et d'une catastrophe nucléaire. À 14h46, précise cet après-midi, plusieurs centaines de militants anti-nucléaires se sont rassemblés à Paris pour un hommage aux victimes. Ils réclament la fermeture des centrales françaises. Un jeune Espagnol détrône Simon Yates dans la toute dernière étape du Paris-Nice aujourd'hui. Marc Soler, 24 ans, a remporté la course cycliste avec 4 petites secondes d'avance sur le Britannique au classement général. Le premier Français, c'est Alexis Villermoz, 8e.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info avec nos quatre débatteurs ce soir. David Boyeri, France Télévisions, François-Hernan Vine, Lacroix, Gérard Leclerc, CNews et le site Oui Demain et Denis Sifer du magazine Politis. Déni démocratique, atteinte au pluralisme, c'est ce que l'on entend depuis quelques jours dans les rangs des élus à l'Assemblée, au Sénat, pour dénoncer la prochaine révision constitutionnelle, mais surtout pour dénoncer la méthode du gouvernement, la méthode inspirée par le chef de l'État. Passage en force, comme le probable recours aux ordonnances pour la réforme de la SNCF, ou encore possible limitation du droit d'amendement en fonction de l'importance des groupes parlementaires. Trop, c'est trop, disent les parlementaires, alors que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, explique, lui, sur CNews Europe 1 ce midi, eh bien, qu'il faut aller plus vite. Il parle même d'hygiène démocratique.
On passe autant de temps sur des amendements très techniques auxquels, franchement, parfois même celui qui le dépose n'y comprend pas grand-chose, si on se dit les choses très entre nous, et alors auquel le ministre ne comprend pas non plus grand-chose. Et on passe le même nombre... Oui, mais c'est la réalité. On passe autant de temps sur un amendement important, à savoir 2 minutes, que sur des amendements très techniques. Moi, je souhaiterais, par exemple, qu'on puisse passer plus de temps sur des amendements plus structurants. Et donc, ce serait aussi, en termes d'hygiène démocratique pour tous les groupes politiques, le fait de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment défendre au Parlement, qu'est-ce qui mérite vraiment un beau débat, et le Parlement... et le lieu de beaux débats.
François-Hernan Vine, hygiène démocratique, est-ce que le gouvernement va trop loin en voulant réduire cette procédure parlementaire ou vraiment, on sait, il y a toujours une guerre d'usure avec ces amendements où on change juste une phrase, une virgule.
Je vais faire une réponse en même temps, c'est dans l'air du temps. En même temps, il a raison de vouloir réformer et en même temps, il faut s'interroger sur ce qu'il propose. La nécessité de revoir le travail parlementaire, la nécessité de repenser les procédures, la nécessité de poser la question du nombre de parlementaires n'est pas un scandale. C'était d'ailleurs dans le débat de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron en partie a été élu pour conduire des réformes de ce type. Donc ça serait faire un mauvais procès que de lui reprocher d'enclencher quelque chose. Et puis après, on peut considérer que nombre de ceux qui contestent ces réformes, on peut examiner leurs raisons. Quelles sont les raisons du Sénat de ne pas accepter la limitation du cumul des mandats dans le temps ? Quelles sont les raisons du Sénat d'être vent debout contre la réduction du nombre de parlementaires, sauf à dire qu'il faut que tous les départements soient représentés. Sur chacun des chantiers, il y a des questions à poser. Mais simplement, il faut veiller à ce que l'équilibre des pouvoirs soit respecté.
Il faut dépoussiérer, essayer de respecter cet équilibre, c'est difficile.
Oui, justement, c'est pour ça que, en fait, jusqu'à présent, à l'heure où on parle, le pari peut sembler très risqué de la part d'Emmanuel Macron. En fait, je pense que tout va dépendre de comment c'est perçu par l'opinion publique, les termes du débat. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, c'est avant tout dépoussiérer la pratique parlementaire.
Si on dit qu'il y a trop de cumulards, je pense que l'opinion publique sera toujours d'accord pour dire il faut faire le ménage.
Oui, mais là
si c'est présenté comme ça.
Oui, bien sûr. Mais après, sur comment limiter, on va dire, le travail parlementaire avec les amendements, etc. Parce que Benjamin Griveaux, je ne sais pas s'il l'a répété là dans cette émission, mais c'est vrai qu'il y a des amendements d'obstruction qui systématiquement visent à juste ralentir le travail parlementaire.
C'est récurrent.
Et donc, mais en fait, je pense que tout ce qui va se jouer, c'est de comment est-ce que c'est perçu par l'opinion publique. Est-ce que c'est l'argumentaire des sénateurs ? Est-ce que c'est uniquement pour défendre leurs acquis et leur fonctionnement actuel, ou est-ce qu'il y a réellement la volonté de moderniser ? Je pense que c'est comme ça que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre.
Gérard Leclerc, qui connaissait bien la vie parlementaire.
Justement.
Alors, trop d'amendements, est-ce que le débat démocratique est confisqué ?
D'une façon générale, à mon avis, c'est le gros souci des parlementaires. C'est qu'ils savent très bien que le gouvernement et le président de la République, surtout, ils savent qu'ils ont l'opinion publique derrière eux. C'est-à-dire que tous les sondages démontrent que réduire le nombre des parlementaires, à tort ou à raison, les Français disent oui. Limiter le cumul dans le temps, ils disent oui à 80%. Introduire une dose de proportionnelle, c'est un peu moins fort, mais quand même, il y a une forte majorité.
On va y revenir, oui.
Alors, il y a et c'est d'ailleurs, à mon avis, toute la négociation qu'il y a avec le Sénat, c'est ça. L'Élysée négocie avec Larcher, qui est donc plutôt hostile à ces réformes. avec toujours la menace en disant si vous me cassez trop les pieds, on va y aller au référendum et vous verrez que les Français sont pour. Cela dit, là-dessus, il devrait aussi être prudent parce qu'un référendum, on sait très bien que les gens souvent ne répondent pas à la question et en profitent pour répondre à une autre. Bon, il reste le dernier point qui est celui des procédures parlementaires. C'est vrai que actuellement, c'est un peu caricatural parce que c'est histoire d'amendement, de bataille d'amendement, c'est absurde. D'un autre côté, il faudrait quand même pas que le résultat ce soit d'abaisser encore un peu plus le Parlement, parce qu'on est déjà dans un régime qui est très présidentiel, et donc là, il peut y avoir un souci. Il faut faire ça intelligemment, donc il faut attendre de voir le texte.
Alors, je ne vais pas confisquer la parole de Denis Siffert. On va vous retrouver dans un instant pour poursuivre ce débat sur la réforme constitutionnelle. Y a-t-il trop d'amendements? Faut-il introduire une part de proportionnelle dans la prochaine élection? On voit cela dans 3 minutes, juste après la météo et les infos sur France Info. A tout de suite, restez avec nous.
France Info Trafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Avant la météo, on fait un point circulation au PC Mobilité avec vous, Tanguy Bocconi. Où se trouvent les difficultés en ce dimanche soir ? Tanguy Bocconi, êtes-vous en ligne avec nous ?
Oui.
Allez-y,
vous m'entendez ?
On vous écoute.
Avec des bouchons à l'entrée de Nice suite à un accident de poids lourd en cours de dégagement, la circulation se fait au pas sur la 8 avec un ralentissement de 20 minutes sur 1 km à l'entrée de Nice en venant d'Aix-en-Provence. Au sud de Paris, attention à cet accident de moto sur la Francilienne intérieure à hauteur de Linas. Une voie de circulation est neutralisée avec pour conséquence 10 minutes de bouchons en amont. Enfin, attention aux fortes pluies dans la Loire sur la 47 et la 72 autour de Saint-Étienne. Même chose sur l'A9 entre Montpellier et Perpignan.
Merci Tanguy. À tout à l'heure. La météo tout de suite.
France Info Météo avec le CIC, banque d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
On regarde la carte du ciel de ce lundi. Jean-Michel Golinski, Météo France.
Un temps souvent menaçant et plus frais demain, seuls le Languedoc, le Roussillon et la Provence auront droit à un ensoleillement durable et à des températures équivalentes à celles d'aujourd'hui, alors que sur les autres régions, les valeurs de l'après-midi vont perdre entre 6 et 8 degrés sous un ciel dans l'ensemble très changeant et chargé d'averses sous forme de giboulées, avec un vent d'ouest sensible jusqu'à 80 km/h sur les côtes, 60 dans l'intérieur. Notez que dans le quart sud-ouest, entre la Garonne et le Limousin, la stabilité sera souvent plus forte l'après-midi, avec possibilité de grésils, voire d'orages. Il va neiger sur l'ensemble des massifs du sud, à moyenne altitude, à partir de 1100 mètres sur les Pyrénées, 1200 sur le Massif central et les Alpes.
Merci d'écouter France Info, il est précisément 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Juste arrivé pour l'info.
Le directeur adjoint du mouvement de jeunesse du FN, suspendu par son parti, il a été filmé en train d'insulter quelqu'un avec des mots racistes. Les adhérents du Front National, eux, voteront par correspondance pour devenir adhérents du Rassemblement National. C'est le nouveau nom proposé par Marine Le Pen cet après-midi. Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne, n'est pas convaincue que ça serve à grand-chose.
Ce n'est pas en changeant le nom d'un parti qu'on arrivera à changer l'essence de ce parti qui reste quand même un parti raciste et on le voit avec la sortie du dirigeant du FNJ. On voit bien qu'aujourd'hui, le Front National peine à être une opposition à Emmanuel Macron. Ils ne font sans cesse que revenir sur des mesures en disant oui puis non et ils ont des incohérences de discours extrêmement fortes. Donc nous continuerons à nous battre contre le Front National qui n'est pas un parti républicain. Et donc, je pense que ça ne changera pas grand-chose.
Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Jean-Luc Mélenchon ne se présentera pas aux élections européennes l'an prochain. Le député des Bouches-du-Rhône se dit suffisamment occupé par son mandat actuel de député. Il sera reçu en avril par Emmanuel Macron. L'élu La France Insoumise souhaite lui présenter son projet d'un nouveau conseil de déontologie pour les médias. Annick Girardin, attendue demain à Mayotte. La ministre des Outre-mer arrivera sur une île en pleine crise. 3 semaines de contestation sociale pour une meilleure prise en compte compte de l'insécurité. La rentrée scolaire prévue ce lundi est menacée, même si Benjamin Griveaux a affirmé ce matin qu'elle serait maintenue. Le porte-parole du gouvernement s'est également exprimé au sujet des heures supplémentaires défiscalisées. Elles feront leur retour dans le budget de l'État en 2020. Il s'agira d'une suppression des cotisations sociales. Il doit inaugurer demain une centrale solaire dans le nord-est de l'Inde. Emmanuel Macron assistait aujourd'hui au congrès fondateur de l'Alliance solaire internationale, une coalition de pays tropicaux qui souhaitent précisément développer leur énergie solaire. La France leur consacrera 700 millions d'euros par des prêts ou des dons. Deux députés chinois ont voté ce matin contre la fin de la limitation dans le temps des mandats présidentiels. En face, 2958 autres parlementaires ont voté pour. Voilà donc Xi Jinping assuré de rester président jusqu'à sa mort. Le Pays de Galles domine l'Italie au tournoi destination de rugby, victoire 38-14, tandis que dans le top 14, Lyon s'est imposé sur le terrain de Toulouse 27-20. Le Stade français a battu Castres 23-17. Le football à 21h, Toulouse-Marseille en Ligue 1. L'Olympique lyonnais se ressaisit face à Caen 1-0 et l'OGC Nice en balade à Guingamp, victoire azuréenne 5-2. 20h33 sur France Info, les informés, ça continue jusqu'à 21h, toujours avec Pierre Neveu et ses invités.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info, deuxième partie, avec Denis Siffer du magazine Politis, avec Gérard Leclerc, de éditorialiste CNews et du site Oui Demain, avec David Boyeri, de la rédaction du service économique et social de France Télévisions, avec François Hernenwein, du quotidien La Croix. On poursuit notre débat sur la révision constitutionnelle, Denis Siffer, dont on vous a pas entendu jusqu'à présent. Alors, y a-t-il trop d'amendements? Est-ce que, comme le dit André Chassaigne, le pouvoir est confisqué par l'Élysée selon vous?
Il y a trop d'amendements sans doute, mais c'est très difficile de savoir quels sont les bons amendements et les mauvais. Donc là, on entre dans une spirale qui est quand même assez redoutable. Cela dit, sur le fond, Macron joue sur du velours parce qu'effectivement, il va avoir une certaine popularité face à des conservatismes qui ne sont pas très très appréciés en général par l'opinion. Mais ce qui me gêne plus dans cette affaire, c'est pas tant les résistances et les mauvaises raisons qui lui sont opposées que le contexte général. C'est-à-dire, on additionne les ordonnances une fois, deux fois, une menace de référendum si jamais ça ne passe pas. Enfin, là, on a quand même une hyper-présidentialisation du système et une dévalorisation du Parlement avec des arguments qui sont censés justement le revaloriser. Donc on est quand même là dans un paradoxe qui peut inquiéter, qui peut finir par inquiéter l'opinion, notamment si on en venait à un référendum où là ça pourrait se retourner contre Macron.
François Hernenwein.
Mais moi ce qui me frappe sur le plan de la science politique, si on peut dire, quelle est la conception de l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron? Ce qui est en filigrane dans tout ce qui est proposé, c'est une conception finalement assez technicienne, c'est-à-dire on va gouverner le pays comme une entreprise. Or, la dynamique politique s'accommode mal de ce mode de gestion. Vouloir plus d'efficacité, ça me paraît raisonnable, mais vouloir réduire, amputer le débat au nom de la vitesse nécessaire pour les réformes, ça me paraît politiquement pas très sain et pas très avantageux pour la qualité du débat démocratique. Je voudrais rappeler ici une évidence, la démocratie c'est pas seulement des procédures, c'est aussi une éthique de la discussion. Cette éthique de la discussion impose que les conditions de la discussion du compromis soient réunies, c'est-à-dire il faut s'opposer et dialoguer longtemps pour faire de bonnes réformes. Les réformes ne se décrètent pas d'en haut.
Alors, dans cette réforme constitutionnelle, il est question d'une introduction de proportionnelle pour une prochaine élection. C'est un vieux serpent de mer, hein, il en a toujours été question. Jusqu'où aller? Ne pas dépasser la barre des 25%, Gérard Leclerc?
Ah oui, de toute façon, parce que ça devient gouvernable. C'est le vrai problème, c'est ça. On le voit autour de nous. Bon, l'Allemagne, ils ont été sauvés parce qu'il y a un esprit justement de la concertation et du compromis en Allemagne qui a finalement permis, mais après 5 mois quand même où il n'y avait pas de gouvernement, de trouver une solution. Mais quand vous voyez la situation de l'Italie, où là, c'est totalement insoluble pour l'instant, semble-t-il, et d'autres pays où c'est compliqué en Europe. Non, c'est vrai que le proportionnel, c'est juste, c'est le mode de scrutin qui est le plus juste dans la mesure où toutes les sensibilités sont représentées, mais rapidement, ça peut devenir ingouvernable.
Un risque d'instabilité, justement, c'est ce que disait ce midi sur l'antenne d'RTL LCI la vice-présidente déléguée des Républicains, Virginie Calmels.
Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la limitation du droit d'amendement pour l'opposition. On a vraiment le sentiment, là, une fois encore, d'avoir un président qui considère qu'il doit centraliser tous les pouvoirs. On a eu un exemple récent au Sénat. Et sur la proportionnelle, pardon, parce que c'est un point essentiel, la proportionnelle, cher Alexis Brézé, ça peut entraîner deux choses. Ça peut entraîner une instabilité parlementaire, ça peut carrément entraîner une paralysie institutionnelle. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie qu'on se retrouve soit dans un contexte qu'on a connu sous la 4e République, soit dans le contexte difficile de l'Italie qui peut apparaître quasiment ingouvernable.
Et sans remonter aussi loin, David Boëry, la proportionnelle, François Mitterrand en a fait usage et cela a conduit Jean-Marie Le Pen à l'Assemblée nationale avec un groupe d'une trentaine de députés.
Oui, mais on en est revenu, apparemment.
Et puis il y a une cohabitation qui a profité à Jacques Chirac après.
Oui, oui, mais
la stabilité.
Oui, mais ce qui c'est bien ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est ça introduit du coup un peu plus de faiblesse dans la représentation nationale.
Denis Siffert.
La proportionnelle, oui, effectivement, on est toujours dans la même contradiction entre la gouvernabilité et la représentation. En fait, c'est ça la grande question. Tous les constitutionnalistes connaissent ce débat qui est pratiquement sans issue. C'est-à-dire, on peut choisir l'une ou l'autre. Bon, alors on peut sans doute avoir un compromis entre les deux. Effectivement, la proportionnelle, c'est le comble de la démocratie si on veut aller jusqu'au bout de la logique. Ensuite, on voit bien que ça peut aboutir à des impasses redoutables. Mais enfin bon, la 4e République, c'était aussi la guerre d'Algérie, un contexte politique de crise extrême. On peut, je pense, se hasarder à un peu plus de proportionnel sans tomber dans cette situation de crise.
Et à part l'Angleterre, il y a de la proportionnelle, si je ne me trompe pas, dans quasiment tous les pays. Et donc, c'est une question de dosage. C'est-à-dire que la proportionnelle, il ne faut pas que ça dépasse, je ne sais pas si c'est 15 ou 20%, mais en tout cas, ça ne peut pas être plus, qu'après, ça devient. La proportionnelle intégrale, c'est une catastrophe.
François, confirmer ce que disait mon camarade tout à l'heure, Gérard, l'essentiel c'est le dosage. Tout se joue là, mais autant que je sache, il n'est pas question d'introduire la proportionnelle intégrale. Donc c'est un débat un peu théorique. Ouais. Une dose de proportionnelle, c'est parfaitement acceptable.
Mais il faut accepter l'idée, mais ça me paraît normal qu'il y aura donc de ce fait-là des députés Front National. Bah oui, mais on peut pas. Si on veut que l'Assemblée soit un minimum représentative, il faut qu'il y ait des députés Front National.
Dans cette actualité politique, on va prendre le temps d'un sourire avant de parler de l'actualité internationale. Je vous propose d'écouter ce lapsus qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. C'était hier après-midi, avant le coup d'envoi du match France-Angleterre de rugby, le fameux crunch. Le Premier ministre est au Stade de France pour lancer le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023. Édouard Philippe a pris la parole pour officialiser l'événement, et ça donne ça.
Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands jeux. Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines. Les Jeux Olympiques d'hiver l'ont encore démontré. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire. Voilà. Il va falloir que je redevienne sérieux. On ne traduira pas en anglais cette remarque. On la gardera en français.
Bon, Gérard Leclerc, prix d'humour politique, il s'en sort bien.
C'est un vrai
il s'en
lapsus. Sort bien. Normalement, le prix d'humour politique, c'est pas des lapsus, c'est des vrais mots d'esprit voulus ou des vrais saillies. Mais là, oui, là, c'est vraiment le lapsus. J'imagine qu'il n'est pas révélateur de quoi que ce soit.
Non, mais il s'en sort bien, le Premier ministre, quand même.
Ce qui est drôle, c'est qu'il est naturel, quoi. Il rigole, il se rend compte de la. C'est une
moi, je pense qu'il faut être généreux. C'est-à-dire, quand on parle tout le temps, ça arrive, voilà.
Ça nous arrive aussi. Merci de rester fidèles aux informés de France Info. Dans moins d'une minute, on va parler de l'actualité internationale. Élection présidentielle en Russie dimanche prochain. 20h40 sur France Info, les informés. L'information avec Lauriane Delanoë.
Trois directeurs de casino partouche en garde à vue ce soir. Coup de filet de la police judiciaire dans le sud-est de la France, notamment à Cannes. En tout, 7 personnes sont soupçonnées de blanchiment de fraude fiscale pour des parties de poker. Les montants joués seraient bien plus élevés que ceux déclarés au fisc. Il va falloir s'y habituer, le FN va devenir RN, Rassemblement National. C'est le nom proposé par Marine Le Pen pour refonder le parti d'extrême droite. Les militants seront-ils d'accord? Ils doivent voter par correspondance. Le congrès du FN à Lille, marqué aussi par la suspension du numéro 2 du Front National de la Jeunesse. Dans une vidéo, on voit David Rodriguez insulter un vigile avant-hier soir dans un bar. Des insultes racistes, il l'aurait traité de nègre et de singe. L'assistant parlementaire conteste et dénonce un montage. La France va investir pour le développement de l'énergie photovoltaïque dans les pays les plus pauvres. Elle promet 1 milliard d'euros d'ici 2022. Emmanuel Macron a co-présidé aujourd'hui le premier sommet de l'Alliance solaire internationale à New Delhi en Inde. Un dimanche au soleil à Dannemois dans l'Essonne, 40 ans après la mort de Claude François, les fans du chanteur se sont rassemblés dans son village pour fleurir sa tombe. Des centaines de personnes, comme quoi il n'était pas si mal aimé.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info avec Gérard Leclerc, avec Denis Siffert, avec David Boyeri, avec François Hernenwein. On passe à l'actualité internationale. Dimanche prochain, élection présidentielle en Russie. Élection sans surprise, Vladimir Poutine sera reconduit au Kremlin dès le premier tour pour un quatrième mandat de 6 ans. Ma première question est toute simple. La Russie, démocratie ou dictature? François Hernenwein.
On cherche un mot, démocrature, enfin on ne sait plus trop comment nommer tout ça. Alors c'est très difficile de parler de la Russie, parce que là aussi il faut avoir un regard un peu équilibré. Après les 1000 morts de la Ghouta où les troupes russes ont incontestablement joué un rôle en soutenant le régime de Bachar el-Assad, on ne peut pas dire qu'on soit aujourd'hui en admiration devant l'exercice du pouvoir de Poutine, ses manières de faire en Russie, en intérieur, à l'intérieur ou sur le, dans le champ de la politique étrangère. Mais il faut se souvenir qu'après la chute du mur, la Russie a été une nation humiliée, gravement humiliée, et les diplomaties occidentales et américaines au premier chef n'ont pas su gérer la chute du mur. Les Occidentaux se sont enivrés de leur victoire, sans tenir compte qu'il y avait un peuple de 140 millions d'habitants, une grandeur passée et une légitimité à participer aux discussions autour du monde. Et depuis la chute du mur, on a eu une escalade d'humiliation adressée à la Russie. Aujourd'hui, Poutine est extrêmement populaire en Russie. Moi, je suis allé à Vladivostok. Alors, ça vient d'être annexé par la Russie, mais je peux vous dire qu'à Vladivostok, il faut chercher très loin pour trouver des gens qui ont la nostalgie de l'Ukraine. Il faut bien comprendre que dans l'imaginaire russe, Poutine est celui qui a rendu
la grandeur
à un pays qui a été quand même gravement humilié après la chute du mur.
Denis Siffert.
Oui, il ne faut pas oublier en effet que c'est un personnage qui a émergé du chaos, hein. C'est-à-dire que la décennie Eltsine...
Et du KGB aussi.
Hein. Et du KGB, mais ça, il en a conservé, je crois, les méthodes. Mais la décennie Eltsine a été vécue en effet comme une humiliation. Et si Poutine est tellement populaire, même s'il l'est peut-être un peu moins maintenant, mais on a du mal à le comprendre ici, c'est parce qu'il a en effet restabilisé l'État avec des méthodes que tout démocrate réprouve, en effet.
Il n'y a pas d'opposition.
Il n'y a pas d'opposition. Alors, il a tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Parce que
sans arrêt embarqué par la police.
Il y a même eu,
police,
évidemment, hein. une série d'assassinats et de liquidations de journalistes, d'avocats, d'activistes, d'ONG, etc., qui sont quand même, qui jettent un soupçon sur le Kremlin. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une conception en Russie de la démocratie qui est un peu différente de celle qu'on peut avoir ici. Et quand Poutine dit, il a une phrase absolument terrifiante, il dit qu'il n'aime pas le hasard démocratique, c'est très inquiétant à nos yeux. Mais les gens là-bas trouvent en effet que toutes les opérations militaires qui sont détestables, qui sont horribles, celle de la Syrie est sans doute la plus épouvantable de toutes avec la Tchétchénie, et bien tout ça, ça rend une certaine grandeur à la Russie. Ça a des limites, cette pensée, et la limite, elle est économique et sociale, parce que pour l'instant, le pouvoir d'achat baisse quand même en Russie, et ça, c'est très inquiétant pour Poutine.
David Boyeri.
Oui, moi, je suis d'accord qu'il y a un contexte historique, que ça peut être au nom de la grandeur du personnage, de tout ce qu'on veut, mais là, quand même, ça va quand même un peu loin, parce que là, c'est une élection où le président qui se représente va être sans doute élu dès le premier tour.
Et sans il faire
a fait,
campagne.
Et il a fait en tout et pour tout 3 minutes de campagne, de discours. Donc il se retrouve avec 7 opposants, mais pas le principal. Donc je veux dire, le truc est totalement verrouillé quand même. Donc ça, je trouve que ça va quand même un peu loin, même si on peut comprendre qu'il joue effectivement un rôle central dans ce pays lié à son histoire. Mais en plus, oui. Juste pour poursuivre, le vrai problème, c'est pour en faire quoi ? Parce que concrètement, je veux dire, sur les derniers mandats de Poutine, on peut pas dire qu'il y a eu un vrai changement au niveau ne serait-ce que économique. Voilà, c'est un pays qui continue à gagner beaucoup d'argent avec les matières premières, mais qui n'investit pas dans l'industrie, qui ne produit rien et qui importe tout.
Gérard Leclerc.
Non, moi je trouve ça très triste. Je pense que la Russie mérite mieux. La Russie, avec la culture que l'on connaît, avec une société qui aujourd'hui maintenant est tout à fait prête à la démocratie, mérite beaucoup mieux que ce régime autoritaire. Bon, il y a un problème de la démocratie, il y a un apprentissage. Il faut savoir que dans toute l'histoire russe, la démocratie, ils ne l'ont connue que quelques mois en 1917 avant que Lénine prenne le pouvoir, et quelques mois ou peut-être 1 ou 2 ans au moment de Yeltsin, où il y a vraiment eu une vraie expérience démocratique en Russie. Puis ensuite, on est retombé dans ce régime autoritaire. Mais c'est, je vous dis, c'est triste, et franchement, la Russie mérite mieux que ça. C'est aussi malheureusement dans l'air du temps. Il y a un lien dans cette espèce de populisme et d'autoritarisme de Poutine. Vous le retrouvez avec Erdogan en Turquie, vous le retrouvez avec ce qui se passe avec Orban en Hongrie, vous le retrouvez avec Trump aux États-Unis.
Aujourd'hui, il faut des leaders puissants qui verrouillent tout.
Il y a cette
idée-là. Qui verrouillent la communication, qui mettent l'opposition.
Il y a malheureusement cette idée-là dans une partie des peuples, des populations, qu'il faut des régimes forts, des régimes durs, mais c'est une catastrophe.
Denis Siffert.
Mais oui, en effet, fort et dur, même avec peut-être des guillemets, parce que l'issue est incertaine, mais c'est aussi l'exaltation de la haine des autres pays. Ce nationalisme est un nationalisme agressif. Depuis 3-4 ans, il y a eu un tournant dans le discours de Poutine, et un tournant anti-occidental aveugle, disons. Enfin, et il surfe là-dessus avec un retour au traditionalisme. On voit les gens qui l'entourent. Hein. C'est des orthodoxes les plus fondamentalistes avec des croyances qui sont improbables. Et c'est très, très inquiétant, cet obscurantisme qui revient dans son entourage. C'est pas forcément lui, mais c'est de ces gens-là dont il s'entoure.
François Hanenwein.
Non, mais préciser le contexte international qui a permis à des gens comme Poutine de s'installer, ce n'est pas dédouaner Poutine de son cynisme, ni sur le plan intérieur, ni sur le plan extérieur. Mais je pense que devant des phénomènes, la montée de figures comme Poutine, les Occidentaux ont des questions à se poser sur la manière dont ils ont joué sur la scène internationale. Je vais prendre un seul exemple. L'intervention en Libye qui s'est terminée par la disparition de Kadhafi. On a invité les Russes à soutenir à l'ONU l'intervention internationale. La condition de cette intervention internationale, c'était stabiliser le pays, ce n'était pas se débarrasser de Kadhafi. Et là, les Russes ont eu le sentiment, une fois de plus, qu'ils avaient été trompés par les Occidentaux. Il faut tenir compte de cet aspect-là des choses. Après, c'est assez facile pour un cynique comme Poutine de se tourner vers le peuple russe en disant « Regardez comme il nous humilie, résistons ». Et son offre politique, c'est celle-là, accompagnée à l'intérieur de tous les méfaits dont on a parlé tout à l'heure.
De l'obscurantisme, comme l'a tout à fait justement de Dissifère. Il y a actuellement une espèce de quelque part, l'Occident est montré comme de la décadence, un des pays soumis à une immigration folle, à l'homosexualité, etc. Enfin, c'est épouvantable, hein, le discours poutinien.
On va poursuivre ce débat, parler de l'actualité internationale, la Russie, mais aussi la Chine. Hein. Et il y a un lien, vous allez le voir, 20h50 sur France Info, l'info, l'essentiel. Avec vous, Lauriane Delanoë. Oui.
La ministre des Outre-mer se rend à Mayotte pour la rentrée des classes demain. Annick Girardin entend ainsi concrétiser la proposition de dialogue du gouvernement. L'île bloquée depuis une vingtaine de jours par une grève générale contre l'insécurité. Marine Le Pen veut lever, je cite, un frein psychologique des électeurs et accéder au pouvoir. Elle propose donc de renommer le Front National en Rassemblement National. Nouveau nom soumis au vote des militants après le congrès du parti à Lille qui s'est terminé cet après-midi. 11 personnes à bord. Un avion privé turc s'est écrasé aujourd'hui dans le sud de l'Iran. L'appareil était parti des Émirats Arabes Unis pour rejoindre Istanbul. D'après les médias iraniens, le pilote avait demandé à voler à basse altitude juste avant de disparaître des radars. Le président turc interpelle l'OTAN avec ce qu'il se passe en Syrie. « Quand allez-vous nous rejoindre ?» lance aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan. Il reproche aux alliés de l'Atlantique Nord de ne pas soutenir son offensive militaire contre les Kurdes à Afrin. La Turquie considère les Kurdes comme des terroristes. Quelles sanctions contre le LOSC après l'envahissement de la pelouse hier soir à Lille? La Ligue de football professionnel mettra le dossier à l'instruction dès la prochaine réunion de ses instances disciplinaires, jeudi. La LFP condamne fermement le comportement des supporters. Dans 10 minutes, Toulouse reçoit Marseille pour la fin de cette 29e journée de Ligue 1.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info avec François Ehrenwein, David Boyeri, Gérard Leclerc, Denis Siffert. On continue à parler de la Russie, puis on va essayer aussi de parler de la Chine. François Ehrenwein, visiblement, Poutine et Xi Jinping, ils emploient la même méthode. Ils décident de lancer une vaste campagne anti-corruption. Comme ça, on élimine toutes les personnes qui sont gênantes pour garder le pouvoir.
C'est une vieille stratégie, mais pour rebondir à ce que disait Gérard tout à l'heure, moi ce qui me frappe, j'ai rencontré des jeunes Russes, et le discours de Poutine sur la grandeur, etc., ils se le sont approprié, c'est constitutif de leur vision du monde, et ils projettent sur l'Occident l'image de faiblesse, d'indécision, etc. Et dans certaines crises comme la Syrie, chacun sait très bien que c'est parce que l'Occident est resté tranquille au moment où il fallait agir que les Russes ont pu revenir dans le jeu et peser à ce point-là maintenant et accompagner des horreurs comme celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc il faut vraiment regarder les choses, et moi je suis d'accord avec l'idée, si on fait le parallèle Chine-Russie, il faut pas être fasciné par ces potentats qui montent, la puissance qu'ils installent, etc. Et les démocraties ont des questions à poser sur ce qui est en train de se passer pour le peuple chinois ou pour le peuple russe.
Alors justement, puisqu'on parle de la Chine, l'Assemblée nationale populaire a décidé aujourd'hui de donner les pleins pouvoirs au président chinois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limitation de mandat, il peut diriger le pays à vie.
Oui, c'est un pas encore plus loin, quoi. Enfin, c'est parce que c'est vrai qu'on peut même se poser la question depuis plusieurs décennies de comment ce système continue, enfin politiquement, à fonctionner en Chine, parce que régime communiste ultra centralisé, mais qui en même temps se lance dans des productions totalement débridées, en ayant même parfois des pratiques ultra libérales dans la façon de produire. Donc et c'est vrai qu'on se pose toujours la question de comment tout ça tient. Alors, on a une petite explication. On sait qu'a priori, la croissance économique de ces dernières années permet à l'ensemble du peuple chinois de se dire bon bah politiquement le truc est très réduit, mais économiquement comme on se développe et qu'on a l'espoir dans les années qui viennent d'être en bien meilleure situation financière.
Numéro
les choses perdues.
Première puissance mondiale d'ici 2050.
Voilà, c'est ça. Mais donc là, avec cette étape supplémentaire où là on se retrouve avec un président à vie ad vitam aeternam, c'est quand même un peu compliqué à gérer. Surtout que d'un point de vue économique, il y a quand même déjà des faiblesses qui sont en train d'apparaître.
Oui, mais quand même, le paradoxe chinois, c'est que c'est l'expansion économique qui permet la régression politique.
Oui.
Autrefois, on nous expliquait qu'avec justement le développement économique, forcément, on allait vers la démocratie politique. C'est complètement faux. Mais ça fonctionne.
Même.
L'un tient l'autre. La Chine peut se permettre, si je puis dire, de cette espèce de... Enfin, encore que la Chine n'a quand même jamais été une démocratie. Mais enfin, de recul, si je puis dire, démocratique. Puisqu'il y avait quand même eu, en 82, ils avaient fait cette loi, c'était Deng Xiaoping, pour limiter le pouvoir présidentiel, qu'on puisse pas se représenter. Il revient là-dessus, Xi Jinping peut revenir là-dessus parce que le pays se tait, parce que pour l'instant, vous avez toujours une croissance de 6 à 7% par an et que donc il y a une espèce d'enrichissement de la population. pas de toute la population, je crois que dans les campagnes, ils restent quand même assez pauvres. Enfin, quand même, globalement, et donc le pays est tenu comme ça. Alors, c'est la différence avec la Russie, parce que la Russie, la situation économique en Russie n'est pas brillante. Hein,
Denis,
alors, oui, elle n'est pas brillante non plus trop en Chine, finalement, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, d'énormes inégalités. Mais... Je crois que c'est un des pays
plus
inégalités
de plus en plus.
Au monde, avec des fortunes colossales dont on a les échos ici, puisqu'ils achètent à tour de bras dans les pays occidentaux, tout en critiquant les 10 pays. Mais bon, le secret, c'est en effet une croissance qui a été gigantesque, enfin très impressionnante au cours des dernières années, plus un appareil répressif épouvantable. Donc maintenant, la croissance est en chute libre. Et je voyais tout à l'heure, là, avant de venir ici, que le PIB par habitant classe la Chine au 121e rang dans le monde. C'est-à-dire que le petit peuple, si j'ose dire, hein, pas les élites forcément à Pékin, mais le petit peuple n'a pas beaucoup de retours sur les années de croissance.
Mais c'est parce qu'ils sont très nombreux.
Comme le temps presse, hein, on arrive à la fin de cette émission. Denis Siffer, la une de Politis en kiosque cette semaine.
Alors, cette semaine en kiosque, que c'est sur le consentement sexuel, c'est le débat. Et la semaine prochaine, puisque c'est en pareil le jeudi, ça sera sur Poutine, justement.
François Hanenwein, La Croix, demain.
On ouvre un dossier de 3 semaines. C'est le premier jour d'une grande exploration à la veille des états généraux sur la bioéthique. On ouvre des dossiers pendant 3 semaines autour des grandes questions qui seront débattues à ce moment-là.
Pour Gérard Leclerc, CNews, demain, demain.
Oui, demain, revue papier également, un dossier sur les GAFA et le danger pour la démocratie, l'intrusion des GAFA, Google, Amazon, etc. Et un autre sur les hypermarchés qui ont du plomb dans l'aile.
Merci également à David Boyry de la rédaction du service économique et social de France Télévisions. Demain, 8h30, Toussaint, a-t-il rendez-vous politique avec Alexis Corbière. Restez avec nous, l'info continue.